Alors, dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons l'apôtre Jean, âgé, être exilé sur une île parce qu'il rend témoignage à Jésus-Christ. Et un dimanche, Jésus-Christ se révèle à lui avec beaucoup de majesté et de gloire. Et c'est ce que Timothée nous a lu en partie tout à l'heure. Jean est terrorisé devant cette puissante apparition. Mais Jésus-Christ le rassure, puis lui confie un message à transmettre aux églises. Ce message est rapporté donc dans le livre de l'Apocalypse. Et il commence avec 7 lettres adressées à 7 églises. Et le fait que ces lettres soient 7, le chiffre qui représente dans la Bible ce qui est complet, laisse penser qu'à travers elle, Jésus s'adresse à toutes les églises, à toute l'église de tous les temps, et donc aussi à nous aujourd'hui. Ces lettres sont différentes et complémentaires, et on gagnerait à les lire et les méditer ensemble, mais ce matin, nous allons nous contenter de survoler la dernière, la lettre à l'église de Laodicée. Et j'invite Claude R. maintenant à venir nous lire cette lettre.
Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voie plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises.
Merci. Alors nous allons avoir 4 parties maintenant. De longueur inégale, je vous rassure. La première partie, on va s'intéresser à l'auteur. Donc ces 4 parties vont simplement suivre le déroulement de la lettre, le déroulement du texte. Et avant de nous intéresser à l'auteur, on va juste un tout petit peu s'arrêter à l'expression « l'ange de l'église » de Laodicée. De quoi il s'agit ? Alors pour certains, certains voient un responsable ou des responsables de l'Église, mais alors on ne comprend pas très bien pourquoi il est question d'un ange. Pour d'autres, c'est une manière de parler de l'ensemble de l'Église qui est ainsi personnifiée, et cela correspond bien au contenu des lettres, mais pareil, ça ne rend pas vraiment justice au mot « ange ». Pour d'autres, enfin, il s'agit d'un être céleste, chargé de représenter l'Église devant Dieu. Et s'adresser à lui revient en fait à s'adresser à l'Église à laquelle il est attaché. En tout cas, quelle que soit l'option retenue, on peut remarquer que ce terme permet un message personnel et solennel. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Alors ce matin, Timothée nous a amené à nous rappeler que Dieu est saint et que Dieu est puissant. Ici, Jésus-Christ se présente comme étant l'Amen. Dans les évangiles, quand il dit « Amen, Amen, je vous le dis », en général, c'est traduit « en vérité, je vous le dis ». Ou bien « c'est la vérité, je vous le déclare ». En Ésaïe, ce mot « Amen » est aussi utilisé comme ici, en nom propre, et il est traduit « Dieu de vérité ». Ce que Jésus dit ici, c'est qu'il est celui qui est la vérité. Et ce titre est confirmé par ce qui suit. Il est le témoin fidèle. On peut lui faire confiance. Il ne ment pas quand il rapporte ce qu'il voit. Il est le témoin véritable. Ce qu'il dit est la vérité. Toutes ces affirmations affirment la solidité de ce qui est dit. Notre société a tendance à tout relativiser et nous ne sommes plus habitués à ce que quelqu'un qualifie avec autant de force son discours comme étant solide, sûr et vrai. Oui, mais là, c'est Jésus-Christ qui parle. Le Fils, égal de Dieu le Père, deuxième personne de la Trinité. Il dit la vérité, il est lui-même la vérité. Et cette présentation de lui-même est d'autant plus importante qu'il va révéler aux chrétiens de Laodicée que eux ne sont pas dans la vérité. Et il continue ainsi, « Il est l'auteur de la création de Dieu. Tout dépend de lui, il est à l'origine de tout. Par conséquent, il sait de quoi il parle. Et il a la légitimité absolue pour dire ce qu'il a à dire. » Veillons à ne pas relativiser, peut-être même de manière inconsciente, ce que Jésus-Christ a à nous dire. Veillons à ne pas mettre de frein entre sa parole et notre cœur. Dans un premier temps, ce que Jésus-Christ a à dire à l'église de Laodicée n'est pas agréable à entendre. Il y a un décalage tragique entre la télécommande et l'ordi. Il y a un décalage tragique entre la perception que l'église de Laodicée a de sa situation et la réalité. Je connais tes œuvres, dit Jésus-Christ. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Les historiens nous disent que l'alimentation en eau de la ville de Laodicée n'était pas fameuse et que l'eau y arrivait tiède et donc désagréable à boire. Pour deux villes voisines, la situation était différente. À Hiérapolis, il y avait de l'eau chaude utilisée à des fins thérapeutiques. À Colosse, l'eau était froide et donc pure et potable. En contraste, l'eau de Laodicée était, selon certains commentateurs, inutile et en tout cas, pour sûr, elle était désagréable. L'image est bien choisie. Les Laodicéens savaient exactement quel goût, ou plutôt quel dégoût, Jésus-Christ évoquait quand il parle de vomir ce qui est tiède. Jésus s'adresse ici à des chrétiens. Comment en sont-ils arrivés à être objet de dégoût pour leur Sauveur? Comment est-il possible que leur attitude lui donnait envie de vomir? Verset 17. En effet, tu dis, « Je suis riche, Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'était tout d'abord une attitude centrée sur eux-mêmes, égocentrée. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Je. Alors attention à nous. Comment est-ce que nous parlons ou comment est-ce que nous concevons notre vie chrétienne ? Est-ce que c'est « je suis ceci, je fais cela, je participe » ? Moi, par ce verset, je me sens remise en question, pas forcément pour ma vie chrétienne en général, mais pour ma manière d'en parler. Par exemple, à mon travail, je ne cache pas à mes collègues que je suis chrétienne, mais mon témoignage, entre guillemets, si c'en est un, est trop centré sur moi ou bien sur des activités de l'Église. Il n'est pas suffisamment centré sur Jésus-Christ et sur son œuvre jusqu'à présent. Et c'est pourquoi je remercie le Seigneur et je remercie le CNEF Mulhouse pour la récente conférence qu'il y a eu sur le témoignage Minute, qui va m'aider à plus parler de Jésus-Christ quand je cherche à partager ma foi. Est-ce que notre vie chrétienne, c'est je, ou est-ce qu'il y a quelque chose à décentrer de nous-mêmes ? Ensuite, dans ce verset, on peut voir aussi une attitude de suffisance, de satisfaction. La ville de Laodicée était riche. Ses habitants faisaient de belles affaires avec le commerce de tissus. Et les historiens rapportent même qu'un jour, il y a eu un tremblement de terre et les Romains avaient proposé de l'aide pour reconstruire la ville. Mais les habitants l'avaient refusé parce qu'ils avaient suffisamment d'argent et parce qu'ils désiraient rester indépendants. Et on voit dans ce verset que les chrétiens de la ville avaient la même aisance et la même mentalité que leurs concitoyens, bien lotis matériellement et ne souhaitant dépendre de personne. Une attitude d'orgueil. Nous aussi, nous pouvons être riches matériellement, peut-être qu'on ne l'est pas, mais même si on n'est pas riche matériellement, on n'est pas forcément à l'abri d'une attitude d'autosuffisance, semblable à celle qu'on voit ici. Par exemple, on peut s'enorgueillir de notre débrouillardise, d'arriver à s'en sortir par soi-même dans une situation compliquée. On peut s'enorgueillir de nos connaissances, de notre philosophie de vie, ou bien des relations que nous avons et que nous arrivons à conserver. Mais combien l'orgueil est déplacé. Gardons toujours présent à notre esprit ces questions de l'apôtre Paul. Qu'as-tu qui ne t'a été donné ? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu ? Il ne s'agit pas de dire que nous n'avons pas le droit de profiter des belles choses de notre vie, mais reconnaissons que notre Dieu est le premier auteur de ce qui nous arrive de bien et de beau. Je n'ai besoin de rien. C'est ce que nous lisons au milieu de ce verset. C'est là un des points de cette lettre qui m'a le plus touchée et que je trouve tragique. Les chrétiens de Laodicée disent « Je n'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il me faut, tout va bien. » Mais ils sont dans l'erreur. Est-ce que dans nos vies, quelqu'un d'autre que Jésus ou quelque chose d'autre vient nous remplir au point que nous nous sentons bien, satisfaits, au point que nous n'avons pas envie d'être dérangés? Est-ce que quelque chose remplit ma vie qui me fait croire que je n'ai besoin de rien? Quelque chose qui fait que Jésus est poussé dehors, mis à la porte? Les chrétiens de Laodicée sont contents de leur situation. Ils s'auto-congratulent, tout va bien. On sent une pointe de « ne venez pas nous déranger, surtout ne rien changer ». Mais pour avancer, il faut marcher. Et on dit que la marche est une suite de déséquilibres. Eux ne souhaitent pas l'inconfort d'un déséquilibre, même pour avancer. Ils veulent rester là où ils sont, comme ils sont. Jésus-Christ, le témoin fidèle, l'amène, va non seulement les déséquilibrer, mais aussi les secouer. Tu penses que tout va bien, que tu es comblé, mais en fait, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà le constat de ton Créateur. Voilà ce que dit celui qui est la vérité. Quelle accumulation de manque pour celui qui pensait être comblé. Tu es malheureux. Tu penses être heureux, mais tu n'as pas goûté à ce qu'est réellement le bonheur. Ou bien tu l'as oublié. Tu es misérable. Contrairement à toi, quelqu'un d'extérieur a un regard lucide sur ta situation. Si tu savais combien tu es à plaindre. Tu es pauvre. Tu n'as rien à toi qui ait de la valeur. Ton orgueil et ton autosuffisance cachent très mal le vide qui est en toi. Tu es aveugle. Il n'y a rien, il n'y a que toi qui ne réalise pas dans quelle situation tu es. Tu es nu. Tu n'as même pas le minimum nécessaire pour simplement être en présence des autres. Tu te présentes devant les autres et devant ton Créateur de façon honteuse. Tout cela, tu ne le sais pas. Tu ne t'en rends pas compte. Que Dieu nous préserve de nous tromper dans notre manière de juger les différentes situations de notre vie. Tu ne sais pas. Que Dieu ne nous dise pas cela, qu'il nous conduise à percevoir notre vie de façon juste, qu'il nous préserve de nous tromper sur nous-mêmes. C'est humain de se tromper. On est tous et en permanence sujets à toutes sortes d'influences. Notre indépendance d'esprit est probablement bien moindre que ce que nous ressentons ou imaginons. Moi, j'ai l'habitude de dire que je suis quelqu'un de très influençable, et c'est pourquoi j'essaye de choisir les personnes par lesquelles je me laisse influencer. J'espère que je choisis les bonnes. Mais quelle meilleure personne pour nous influencer que Jésus-Christ ? Et comment être guidé par lui ? En nous nourrissant régulièrement de sa parole, en lisant régulièrement et avec sagesse la Bible. Lisons-la souvent, que cela fasse partie de notre quotidien. Lisons-la avec sagesse, que Dieu soit notre guide dans cette lecture. Des chrétiens plus mûrs, plus avancés que nous dans la foi, peuvent aussi être des aides utiles. Parfois, acquérir de la sagesse dans cette lecture demande des efforts. Et j'ai l'audace de penser, le souhait, et je prie pour que Delta, les mardis soirs, et que la formation biblique, les lundis soirs, soient des outils qui aident à lire la Bible, à la lire avec sagesse, des outils pour ceux qui pensent en avoir besoin. Revenons à notre texte. En apparence, le bilan que Jésus-Christ pose sur cette église ne révèle rien de bien méchant, rien de très grave. De plus, l'église était active, le Seigneur connaît ses œuvres. Mais Jésus ne pense pas comme nous. L'autosatisfaction qui conduit à des idées fausses, l'orgueil qui rend aveugle, cela le dégoûte. Nous ne voulons pas que notre attitude donne la nausée à notre Seigneur. Jusqu'à présent, le Seigneur Jésus-Christ ne mâche pas ses mots dans cette lettre. Mais ce n'est pas pour écraser, ce n'est pas pour anéantir. C'est pour conduire à une prise de conscience, nécessaire et salutaire. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Si le Seigneur est direct dans son verdict, c'est pour réveiller de leur torpeur ceux qu'il aime. Et il va montrer son amour dans la suite de cette lettre. Et c'est ce qui m'a donné envie de la relire ce matin avec vous. Après des paroles dures, avec quelle affection le Seigneur continue sa lettre. C'est une offre à saisir, maintenant. La solution est pour tous, pas seulement pour les Laodicéens. La solution est pour tous ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, tous ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voie plus la honte de ta nudité. Ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu voies. Achète. Vraiment, il s'agit d'acheter ? Pourtant, tout l'Évangile dit clairement que le salut est gratuit. Mais les Laodicéens étaient attachés à leur richesse. Comme le jeune homme riche, lui aussi, dont il est question dans les Évangiles. Jésus veut leur montrer qu'ils doivent se défaire de leur richesse auxquelles ils tiennent trop et qui les aveugle. C'est nécessaire pour recevoir ce que Jésus veut leur offrir. C'est probablement comme ça qu'on peut comprendre cette exhortation à acheter. Et nous, avons-nous des choses auxquelles nous tenons beaucoup, auxquelles nous tenons trop, et dont nous devons nous défaire pour recevoir ce que Jésus veut nous donner ? Acheter quoi ? Ce qui est authentique, ce qui a de la valeur. Jésus propose les vrais trésors, ce qui dure, ce qui a du poids pour l'éternité. Ce dont nous avons besoin, pas une façade. Jésus propose l'or éprouvé par le feu. Alors il s'agit probablement d'une foi mature, adulte, si on compare avec d'autres textes. L'or, c'est une foi solide qui a été consolidée par les épreuves. Jésus propose le vêtement blanc. Là où il y avait le malaise de la honte, Jésus offre un authentique pardon. Un collyre pour les yeux, un remède qui soigne réellement. Jésus propose quelque chose qui permet de voir la réalité telle qu'elle est et qui nous guérit d'une construction de notre esprit qui est fausse. Des commentateurs voient dans ce collyre, dans ce remède, l'esprit qui illumine notre être intérieur. Achète chez moi. Et c'est là qu'est la clé. Les Laodicéens regardaient trop leur nombril et leurs propres ressources. Mais c'est seulement en Jésus-Christ que nous trouvons et que nous sommes invités à continuer de trouver ce qui a de la valeur, ce qui compte vraiment. C'est seulement en Jésus-Christ que nous trouvons ce qui répond à nos besoins et qui nous fait avancer. Regardons maintenant avec quelle douceur, avec quelle patience, avec quel infini respect le Seigneur Jésus-Christ envisage la suite de ses relations avec les Laodicéens. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus ne s'impose pas. Ce n'est pas encore le temps du jugement. Ce n'est pas encore le temps de la manifestation pleine et entière de son règne sur tous. C'est le temps de l'appel, de la grâce, de l'offre de salut. Jésus est là. Il fait savoir qu'il voudrait bien entrer dans notre vie, dans notre cœur. Mais il attend que nous le laissions entrer. Il frappe à la porte de notre vie. Il n'est pas étonnant que ce verset soit si souvent utilisé dans un contexte d'évangélisation, quand on explique à qui ne le sait pas que Jésus s'intéresse à nos vies, qu'il désire y entrer. Mais ce qui est tragique ici, c'est que Jésus s'adresse à des chrétiens. Des chrétiens qui, inconsciemment ou non, l'ont mis à la porte de leur vie. Jésus ne s'impose pas, mais il fait savoir qu'il est là et qu'il désire entrer. Il attend. Quelle patience, quel oubli de soi et de son rang, quel respect des personnes. C'est un respect qui peut se retourner contre nous si on ne saisit pas cette offre. Que se passera-t-il si nous laissons Jésus à la porte ? Si nous cultivons cette idée « je n'ai pas besoin de toi » ? Mais Jésus reste disponible et quand nous ouvrons enfin la porte, il est toujours là, prêt à entrer. Il entre et que se passe-t-il ? Il mange avec nous. Cela signifie partage. Remarquons la réciprocité de ce partage, moi avec lui, lui avec moi. Il mange avec nous, cela signifie temps passé ensemble. Remarquons qu'il s'agit du souper, du repas du soir. Donc après, les activités ne reprennent pas. Il n'y avait pas la télé à l'époque. Donc ça veut dire que le temps qu'on passe ensemble continue et dure encore. Il y a tout le temps. Manger ensemble, cela signifie intimité dans le quotidien. C'est aussi un avant-goût de la communion parfaite et ininterrompue que nous aurons avec lui dans l'éternité. Jésus désire partager notre quotidien, notre intimité, et il a tout le temps pour cela. Alors posons-nous pour partager du temps avec lui quotidiennement. On mange bien tous les jours, alors de même tous les jours, asseyons-nous pour un temps de qualité avec Jésus-Christ notre Seigneur. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote ici. Il y a longtemps, quand j'étais au groupe de jeunes, lors d'une soirée, un pasteur invité nous a demandé si on avait vécu un ou des miracles dans la semaine écoulée. Alors on se regardait les uns les autres sans rien dire. Et voici ce que lui a dit, je cite de mémoire. « Moi, j'ai vécu des miracles chaque jour cette semaine. J'ai parlé au Dieu du ciel. » Est-ce que nous nous rendons compte que c'est l'auteur de la création de Dieu, le maître du monde, celui qui est la vérité qui désire partager notre intimité ? Laissons à Jésus toute la place qu'il désire occuper. Et si nous nous rendons compte que nous l'avons mis dehors, à la porte de notre vie, faisons-le rentrer à nouveau. Il n'est pas bien loin, il n'est pas parti, il ne s'est pas lassé d'attendre. Il est toujours là. Il continue d'attendre que nous le laissions entrer. Si nous l'avons oublié, son pardon est toujours offert et il désire reprendre avec nous là où nous en étions. Laissons Jésus entrer dans notre vie, encore, toujours, de nouveau. À la fin de la lettre, comme dans celle qui précède, Jésus-Christ fait une promesse au vainqueur, c'est-à-dire à celui qui reste ferme dans sa foi. Cette promesse, moi, je la trouve ahurissante. Jamais je n'aurais pensé que Dieu irait aussi loin dans ce qu'il prépare pour ceux qui se confient en lui. Et je pense qu'aucun de nous, ici, dans cette salle, n'aurait imaginé une telle chose. On se sentirait trop indigne. Seulement voilà, ce n'est pas nous qui avons imaginé une telle chose. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a décidé. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus-Christ désire nous associer à sa victoire et à son règne. Comment cela se passera-t-il ? Aucune idée. Mais quelle perspective ! Elle donne le vertige. Et aussi, elle souligne combien notre Seigneur est un Dieu de partage. Sa majesté ne l'isole pas. Nous ne le méritons pas, mais lui veut nous amener à cette place. Combien cela montre que nous sommes précieux pour lui. Dans sa gloire et dans sa toute-puissance, il reste amour. À lui soit toute la gloire. Soyons reconnaissants et vivons de manière à ne pas le décevoir. Consacrons-nous tout entier à lui. Utilisons nos forces, nos pensées, notre temps, tout, pour l'honorer et le servir. On va un petit peu résumer, conclure ce qu'on a vu. Peut-être tu peux déjà mettre la diapo suivante aussi. Nous avons vu que Jésus-Christ se présente comme celui dont la parole est vraie et totalement digne d'être reçue. Ce n'est pas notre cas. En tant que chrétiens, nous pouvons nous tromper sur ce qui constitue le centre de notre vie. Le décalage tragique entre une perception faussée de notre situation et la réalité donne la nausée à notre Seigneur. Nous pouvons, inconsciemment ou non, le mettre à la porte de notre vie. Mais lui est toujours là. Jésus-Christ est toujours là, nous proposant ce dont nous avons besoin pour repartir du bon pied. C'est une offre à saisir maintenant. Il est toujours là, ne s'imposant pas, patient et désirant partager notre intimité. Et enfin, nous avons évoqué la place incroyable, inimaginable, qu'il destine à ceux qui resteront fermes dans leur foi, montrant ainsi que dans sa gloire et sa toute-puissance, nous resterons précieux à ses yeux et qu'il continuera de nous aimer. Et je termine maintenant avec les derniers mots de la lettre. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen.